voudrais ce soir que nous tâchions ensemble de nous aider pour entrer dans cette grande retraite qui prépare la venue de l'Esprit Saint. Et remarquez que depuis que le Saint-Père a promulgué le jubilé de la rédemption, chaque fois que dans ses audiences, du mercredi en particulier, il parle des événements ou de la liturgique ou des événements du monde, il reprend toujours et rappelle cette grâce du jubilé. Dans les desseins de Dieu, le jubilé, le pape a voulu qu'il commence avec l'Annonciation, mais l'année prochaine, il s'achèvera avec la fête de Pâques. Donc, c'est la Pentecôte que nous allons vivre dans 9 jours, c'est la Pentecôte de l'année du jubilé. Et il faut tâcher de demander au Saint-Esprit, puisque c'est une année de grâce, que cette Pentecôte, nous la vivions d'une façon, on peut dire comme le pape le dit sans cesse, d'une façon extraordinaire, intérieurement. Non pas par les démarches nécessairement extraordinaires, on n'a pas besoin tous, il y en aura d'entre nous qui iront à Saint-Merlieu, il y en a d'autres qui resteront ici, il y en a d'autres qui les passeront ailleurs, mais chacun de nous, il me semble, il faut que nous soyons très forts à l'écoute pour que cette pente, le Saint-Esprit, nous soit donnée d'une façon toute particulière, parce que c'est lui qui doit nous aider à vivre cette année du jubilé, de la rédemption, comme notre Seigneur et le Père veulent que nous vivions. Je pense que pour nous préparer justement à bien vivre ces jours de retraite qui préparent à la Pentecôte, il faut que nous tâchions de reméditer ensemble un petit peu les liens entre ces mystères de l'Ascension et ces mystères de la Pentecôte. Pendant tout le temps pascal, nous avons essayé de prendre conscience que Jésus est venu sur la terre pour être notre sauveur et qu'il a voulu nous sauver en étant ce rédempteur qui est venu par ce mystère même de la rédemption nous délivrer avant tout du péché. Et en nous délivrant du péché, délivrer de toute peur, de la mort et nous délivrer du démon. Mais que ce mystère de rédemption, ce n'est pas par sa vie cachée qu'il l'a réalisé, ce n'est pas même par sa vie de prédication, mais c'est par le mystère pascal, par le mystère de sa mort et de sa résurrection. Et pendant tout le temps pascal, nous avons essayé de mieux comprendre tous ces passages de saint Paul, tout cet enseignement que saint Paul... C'est lui qui l'a donné d'une façon toute spéciale, puisque, comme converti, il l'avait vécu plus que les autres. Que la mort et tout ce qui prépare à la mort, il faut que nous le voyons à la lumière de la résurrection. Et que, d'autre part, nous ayons cette conviction qu'il faut passer par le chemin de la souffrance et le chemin de la mort pour participer à la résurrection. Il y a là une espèce de logique de l'amour. On sent très bien que pendant tout le temps pascal, l'Église veut nous en faire vivre. Il fallait qu'il souffre pour ressusciter. Il fallait qu'il soit mis 3 jours au tombeau pour sa résurrection. Oui. D'où, voyez, cette grande grâce, pendant tout le temps pascal, nous avons essayé déjà de la demander, mais il faut demander au Saint-Esprit qu'il la consacre en quelque sorte. Demander que dans nos vies désormais, nous ne séparions plus jamais la souffrance et la résurrection de Jésus. Il dit que chaque fois que Dieu nous visite d'une manière ou d'une autre par la souffrance, que ce soit par les souffrances personnelles, que ce soit les souffrances dans notre corps, que ce soit les souffrances par la tentation, soit les souffrances par les persécutions, que ce soit les souffrances dans les communautés qui nous environnent, que ce soit les souffrances dans l'Église, que ce soit les souffrances dans le monde. Il dit que par cette grâce de la résurrection de Jésus, que nous avons su au baptême, nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint. Ces souffrances, nous les voyons toujours à la lumière de Jésus ressuscité. Ça, c'est la très grande grâce que pour terminer notre temps pascal, il faut demander au Saint-Esprit. Mais de fait, pendant le temps pascal, nous avons vu que dans ses desseins de sagesse et de miséricorde, le Père et le Fils avaient voulu que Jésus, pendant 40 jours, soit comme entre ciel et terre, si on peut dire, et pendant tout ce temps pascal. Pour bien comprendre le mystère de l'ascension. Soit comme entre ciel et terre. Et pendant tout ce temps, nous avons essayé de montrer, dès le début du temps pascal, qu'en fait, c'est Marie, la nuit de Pâques, la nuit pascale, plutôt la nuit du samedi saint, c'est elle qui a vécu, de la façon la plus plénière, le mystère de Pâques. Et Jésus est demeuré, en quelque sorte, avec Marie, unie intimement à elle, comme elle l'a été dans cette nuit qui avait suivi cette grande agonie du samedi saint. Mais en même temps, pendant ces 40 jours, Jésus apparaissait à ses disciples dans des apparitions à la fois, je dirais, passagères et à la fois partielles, parce que c'était des apparitions qui n'impliquaient pas encore pour eux une transsubstantiation de leur être. C'était des grâces d'espérance, surtout, que Jésus leur apportait. Et tout ce temps pascal, nous avons essayé de le voir, justement, comment Jésus ressuscité, dès qu'il apparaissait à ses apôtres, le souhait qu'il leur donnait, c'était un souhait de paix. La paix soit avec vous. C'était bien Jésus venant pardonner à ses apôtres. Leur pardonner leur infidélité, leur pardonner leur manque de confiance, leur pardonner toutes les indélicatesses qu'ils avaient eues vis-à-vis de lui pendant toute sa vie publique. Il venait leur pardonner. En même temps, il les confirmait dans leur mission. Venir dire que malgré ses infidélités, au fond, son amour était fidèle. L'amour du Père et du Saint-Esprit était fidèle. Et ça, c'est toutes les grâces que nous pouvons encore demander pendant cette fin du temps pascal, de croire si fort à cette fidélité de l'amour de Dieu. Que notre confiance en Dieu, elle s'appuie sur le fait que nous savons que Dieu est fidèle. Et que quand il nous a donné quelque chose, il ne le retire ni jamais de lui-même. Et au fond, on peut toujours revenir à lui. Il est toujours là pour nous attendre. Donc, Jésus vient pardonner à ses apôtres, il vient les confirmer dans leur mission. Et dans les évangiles, c'est dit de façon très explicite. Encore dans l'évangile du jour de l'ascension, ce que l'Église nous a fait relire. Et puis, le dernier aspect de ces venues de Jésus près des apôtres, il vient pour les préparer à recevoir le Saint-Esprit. Comme leur rappeler ce qu'il a dit pendant son grand discours après l'institution de l'Eucharistie, la veille de sa mort, il leur a donné son testament, qu'il a dit qu'il était bon qu'il s'en aille pour envoyer le Saint-Esprit. Alors je crois que pour que nous puissions bien vivre cette grande semaine, il faut que nous tâchions de nous rappeler un peu ce qu'est le mystère de l'Ascension, d'abord. Parce que ce mystère de l'Ascension, vous le rappelez ce matin, c'est un mystère très caché, en fait. Mais c'est un mystère qu'il importe beaucoup que nous en prenions conscience. Vous voyez, quel est le grand mystère de l'incarnation? Comment est-ce que Dieu nous présente, de façon toute simple, mais d'une façon qu'il faut que nous comprenions bien? Dans le mystère de l'incarnation rédemptrice, ce n'est pas nous qui nous efforçons de nous élever vers Dieu. Ce n'est pas l'attitude de la religion en tant qu'elle est une vertu morale, qu'elle représente par la prière ou d'autres manières un effort pour nous élever péniblement vers Dieu. C'est notre Dieu qui descend vers nous. C'est notre Père, c'est l'Esprit Saint qui envoie le Fils bien-aimé, qui est envoyé par les deux. Et c'est le Fils bien-aimé qui lui-même vient au nom du Père et du Fils sur la terre pour révéler le Père et le Fils. Il vient vivre avec nous. Il vient naître tout d'abord et nous montrer la grandeur de la vie cachée avant de commencer sa vie de prédication. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout par sa souffrance qu'il va nous sauver. Mais dans le mystère de l'Ascension, c'est dans son humanité même, c'est dans son corps, dans ce corps humain qu'il a reçu de Marie. C'est ce corps humain qui retourne, ce corps il l'a pris sur la terre, c'est ce corps humain qui va maintenant se trouver dans une situation divine. Il est comme ça, il est à la droite du Père. Et toute la liturgie de l'Ascension nous montre que c'est par là, maintenant, notre humanité qui, dans celui qui est notre frère aîné, mais notre frère aîné qui s'est fait le frère le plus humble, le plus doux, donc le plus petit, celui qui a voulu surtout n'ayons pas peur de lui. Ou si ça nous arrive d'avoir peur au fond des hommes, peur des autres, bien, de Jésus nous ne devons jamais avoir peur. Et on voit que son effort essentiel pendant toute sa vie sur la terre, c'est de se présenter doux et humble. Jésus n'a été quelquefois sévère que pour les orgueilleux. Pour ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient craintifs, Jésus a toujours été uniquement très doux. Eh bien, pensez que Jésus, dans son humanité, dans cette humanité grâce à laquelle il touchait les pauvres, les petits, dans cette humanité grâce à laquelle Dieu a un visage en quelque sorte pour nous. Maintenant, il est près du Père. Il est remonté près du Père. D'où ce mystère de la rédemption implique que depuis l'Ascension, il y a un homme qui est dans le ciel pour nous, et qui est là pour nous attirer, qui est là pour être notre représentant près du Père, pour être notre médiateur. Et vous savez comment, avec l'Assomption, prend Marie aussi avec lui. Donc, le ciel, pour nous, il faut que ce soit avant tout Jésus. Vous voyez, c'est très, très important. Parce qu'il y a des moments, quelquefois, d'angoisse que nous pouvons connaître sur la terre. Voyez. Et il y a quelquefois des angoisses que le bon Dieu peut permettre, qui sont des grâces. Mais le démon cherchera à nous faire croire, au fond, que c'est des angoisses qui nous fera tomber dans des raisonnements, dans la... Mais pour que ces angoisses soient vraiment des angoisses, des grâces, il faut qu'elles s'achètent dans l'espérance. Et pour nous, comment est-ce que nous avons à nous représenter le ciel maintenant? Qu'est-ce que c'est que le ciel pour nous? Mais c'est Jésus près du Père. Il faut Jésus qui nous fait connaître plus que jamais son Père et l'Esprit Saint. C'est ça le ciel, c'est la Sainte Trinité. Bon. Et Jésus, depuis l'ascension, c'est avec le mystère de l'ascension que Jésus, comme tête du corps mystique, au fond, se trouve constitué en quelque sorte. Vous voyez, le corps mystique de Jésus, c'est depuis l'ascension que maintenant, bon, il a en Jésus déjà, au fond, sa tête, son cœur, sa source de vie près du Père. Et alors, vous vous rappelez ces paroles, je vous les rappelais ce matin, les paroles si fortes de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons relu le jour de l'Ascension, en montrant comment Jésus, dans le mystère de son ascension, dans son corps, monte au-dessus de toutes les forces cosmiques et au-dessus de toutes les forces spirituelles. Et qu'il est là vraiment au-dessus de tout ce qui peut nous faire peur. À un moment où les gens parlent tellement des dangers de guerre nucléaire ou d'autres, en fait, vous voyez, c'est si doux pour nous. Pensez d'où vient, quand Marie vient dire « mon cœur triomphera » et qu'elle vient rappeler à ses petits-enfants qu'à travers tout, il faut qu'il reste toujours des êtres d'espérance. Pourquoi ? C'est que nous avons Jésus au-dessus de tout. Et que par la grâce sanctifiante qui nous a été donnée, nous sommes reliés immédiatement à Jésus. Jésus n'est pas loin de nous. Il reste tout près de nous. Il est beaucoup plus près de nous que n'importe quelle autre personne humaine. Il est par cette voie intérieure. C'est vrai que le Saint-Esprit va nous montrer, va nous la révéler davantage. Nous pouvons à tout moment nous rattacher immédiatement à Jésus. Mais à Jésus, près du Père. Mais à Jésus, dans sa toute-puissance. Le cœur de Jésus, c'est un refuge qui n'est toujours présenté, mais c'est un refuge par rapport à tout, n'importe quelle puissance. Au fond, il y a dans le cœur de Jésus, nous pouvons nous réfugier, lui confier les secrets, nous pouvons retrouver tous ceux que nous aimons. Nous pouvons commencer à vivre de la communion des saints. Mais je dirais, à l'abri de toutes les attaques du démon. À l'abri de toutes les persécutions. Parce que dans ce cœur de Jésus, et encore, en même temps qu'il ne fait qu'un avec le cœur de Marie, bien, au fond, nous pourrons tous nous retrouver. Bon, mais, vous voyez, pour cela, il faut que nous nous retrouvions par une présence très, très humble. Bon, si nous voulons trop nous représenter comment nous nous retrouvons, alors ces représentations, elles viennent de notre imagination, elles viennent de notre mémoire. Et alors ces représentations, au lieu de nous rapprocher, elles risquent de présenter le flanc aux tentations. Elles risquent de nous éloigner. Vous voyez, parce que cette union intime avec Jésus que nous pouvons avoir tout de suite, nous le voulons, mais c'est dans ce silence, dans ce secret intime du cœur. Et c'est, nous n'avons pas besoin de passer par la raison ou de passer par l'imagination. Et non seulement nous n'avons pas besoin, mais quand nous passons par eux, ça c'est très difficile, c'est un passage qui est toujours très périlleux. Parce que ce n'est pas du tout un passage qui est à l'abri, vous voyez, au fond de toutes les attaques du démon. Vous voyez, C'est comme quand on va d'un pays dans le rideau de, si on va dans les pays de l'Est, ben, c'est une frontière, mais qui est très surveillée, hein, et qui n'est pas du tout à l'abri. Et, tandis que nous avons un souterrain hein, qui rejoint immédiatement Jésus au fond de notre cœur. C'est même pas un souterrain. Dès là, il y a l'unité. Hein. Et dans cette fête de l'ascension, c'est la grâce que nous allons demander à notre Seigneur dans tout ce temps qui suit l'ascension, de nous faire comprendre. Il y a au soir de l'ascension, quand dans l'évangile, dans les leçons que nous avons lues jeudi, il y a un passage qui me semble aussi très très important, c'est ces deux anges qui ensuite apparaissent aux apôtres et viennent confirmer que Jésus vient sur la terre, mais qui viennent en même temps annoncer qu'il reviendra. Et donc, il nous montre que maintenant est commencé un nouveau temps, un temps qui est le temps de Jésus et le temps du Saint-Esprit. Le temps du corps mystique. C'est pour ça que vous disiez que Jésus, dans son ascension, c'est à ce moment-là que commence le mystère du corps mystique. Oui. Jésus est mis dans un premier avènement. Il a voulu avant tout sanctifier sa mère. C'est elle la seule qui a pleinement profité de ce premier avènement. L'essentiel, c'était de former pleinement la mère qui nous donnerait à la croix. Il a en même temps formé en partie ses apôtres. Il en a une première formation. Mais il leur a bien dit qu'il était bon qu'ils s'en aillent pour leur formation, pour leur envoyer le Saint-Esprit. Alors, avec l'ascension, c'est une nouvelle époque qui commence. Vous voyez, c'est ce temps entre les deux avènements de notre Seigneur. Le temps de l'Église, l'histoire de l'Église. Mais ce temps de l'Église ne va vraiment commencer que quand le Saint-Esprit sera donné. Et dans les desseins de Dieu, il y a encore un intervalle qui est donné entre l'ascension et la Pentecôte. Il y a encore 10 jours, et nous avons très peur à vivre ces 10 jours. L'Église veut que nous les vivions vraiment 10 jours entre l'ascension et la Pentecôte. Pourquoi est-ce que Jésus a voulu ces 10 jours? Je crois qu'il y a là un très très grand mystère. Ça a d'abord été avant tout pour que les apôtres se mettent à l'école de Marie. Et moi, il me semble que c'est Jean, c'est l'apôtre Jean, qui avait participé au moment de la résurrection de Jésus. Quand Marie avait participé à cette résurrection, il avait dû être témoin, il avait dû donc avoir quelque chose, déjà une grâce particulière, comme un commencement de Pentecôte. Quand Jean a vu que les apôtres étaient si, après une première joie d'avoir vu comme un peu au Tabor, parce que c'est pas quand il est apparu la première fois qu'il était dans la lumière, mais il le voit monter dans la nuée, il y a une espèce un peu de Tabor pour eux, tout à fait au moment de l'ascension. Et puis, il y a là deux témoins, mais ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, c'est deux anges qui viennent annoncer aux apôtres que maintenant, bon, il est bien remonté au ciel, ce sont bien les témoins, mais qu'il reviendra. Bien. Les apôtres, à ce moment-là, après un moment de joie, d'enthousiasme, on voit d'après les textes même des apôtres et des actes, après, ils sont en même temps comme, ils se ressemblent très faibles. Quand Jésus était là, Jésus ressuscité était près d'eux, la présence de Jésus les soutenait, Mais il découvre que cette présence de Jésus ne les a pas encore changés en profondeur. Il n'y a pas encore eu de vraie transsubstantiation pour eux. Vous voyez, si vous prenez dans le langage de Saint Paul, de Saint Jean de la Croix, cette union transformante, non pas Saint Jean de la Croix, et qui implique que le moi soit vraiment brisé, ils n'ont pas encore vécu. Ils ont bien eu, ils ont bien profité de ces présences de Jésus. Quand Jésus était ressuscité, qu'il leur parlait, la parole de Jésus avait une vertu toute particulière, nouvelle, par rapport à la parole qu'ils entendaient quand Jésus était sur la terre. Mais s'ils ont eu une grâce, des grâces de paix très grandes à ce moment-là, si à ce moment-là, vous voyez qu'ils avaient la force pour Saint-Pierre de jeter à l'eau pour se précipiter près de Jésus, bon, si la présence de Jésus les unissait tous, à ce moment-là, il n'y avait plus entre eux, ils sentaient une très grande unité. Bon, mais quand Jésus disparaissait, quand Jésus n'était plus là, bon, de nouveau, ils se sentaient faibles. Ils se découvraient, comme ça nous arrive, au fond, bien souvent. Il y a des moments de grâce, et puis bon Dieu se cache, et puis on découvre qu'on n'est pas encore complètement changé. Et l'apôtre le Saint, Jésus leur avait dit, il avait été jusqu'à Béthanie, dans l'évangile, et puis il leur avait dit, retournez à Jérusalem. C'est Jean qui a dû suggérer, réunissons-nous avec Marie. Restons avec elle pour attendre cette venue de l'Esprit Saint. C'est pour ça que l'Église veut que ces jours nous les passions très fort avec Marie. Qu'est-ce que Marie a appris aux apôtres? Qu'est-ce que les apôtres ne savaient pas encore? Pas oublier que toute la vie cachée, Jésus l'avait placée seulement avec Marie. Jésus avait dit aux apôtres, revenez des petits-enfants, comme des petits-enfants. Mais les apôtres n'avaient pas pu encore comprendre que la grâce dépasse sa nature dans le sens de la petitesse. Il faut être encore plus petit que les petits-enfants de la terre pour vraiment vivre la grâce du baptême. Que le baptême, c'est une nouvelle naissance, mais une nouvelle naissance qui demande qu'on s'approfondisse encore dans cette petitesse. Les apôtres avaient pu très bien connaître l'Ancien Testament, mais Abraham n'apprenait pas à ses fils, ses filles, à en devenir plus petit. Et ça a été la grâce, ils sont venus près de Marie, sentant que par sa présence, ils devaient apprendre à devenir plus petit. Et c'est là qu'on voit bien comment Marie va commencer sa vraie maternité vis-à-vis de l'Église. La mère, c'est bien celle qui, au fond, qui est tout près du tout petit, dans la toute petite enfance. Les apôtres, là, ils ne peuvent pas. Il n'y a que Marie qui leur redonne comme un petit peu. Ils ne sont pas complètement affolés. Ils restent bien verrouillés, mais enfin, elle est là tout de même. Elle les soutient. C'est surtout cette petitesse. C'est surtout cette humilité que Marie leur apprend. Parce que on voit que Saint-Pierre avait eu tellement de difficultés de comprendre que Jésus pouvait établir le royaume de Dieu par ses souffrances et sa mort. Vous voyez que ce royaume de Dieu, il n'établissait pas à part quelque chose de plus spectaculaire en quelque sorte que les prophètes de l'Ancien Testament. Vous voyez que le Nouveau Testament devait dépasser l'Ancien par cette dimension d'intériorité, mais qui sur la terre était en même temps une dimension de petitesse. Au fond, qu'il fallait non pas simplement, quand on constatait des faiblesses en soi, quand on constatait en soi des moments où on était humilié, au lieu de considérer tout cela comme des obstacles pour rencontrer Jésus, de dire, mais après tout, c'est peut-être par là que Jésus va venir. C'est peut-être la béatitude déjà de la pauvreté, de la petitesse que je réalise. Si les apôtres, à ce moment-là, avaient des moments où, en sentant Jésus, tu ne reviendrais plus, Jésus, c'était fini, il fallait plus qu'ils l'attendent. Bon, peut-être qu'il y avait des larmes, parce qu'à penser qu'ils ne reverraient plus Jésus. La présence de Marie, quand ils voyaient Marie, bon, que Marie, loin que ça, elle qui pendant les 40 jours n'avait pas vu Jésus, elle qui pendant les 40 jours n'avait pas entendu la parole de Jésus, elle qui n'avait pas touché de l'extérieur Jésus, bon, Marie comprenne là qu'elle avait encore plus profité de la présence de Jésus qu'eux. Mais cette présence intérieure, et que Marie, elle aussi attendait le Saint-Esprit, en sachant que il y aura encore une présence plus profonde de Jésus qui serait donnée. Ça, c'est très très important comme grâce pour demander à Marie pendant ce temps de la Pentecôte. Vous voyez, parce que si la grande prière que nous allons faire jusqu'à la Pentecôte, c'est de demander que le Saint-Esprit en personne nous soit donné. Non pas les dons du Saint-Esprit, non pas simplement les lumières du Saint-Esprit, non pas simplement la force qu'il peut le donner, non pas simplement les dons de conseil, les dons de science qu'il peut nous accorder, mais avoir cette simplicité, dire mais c'est ta personne. Vous savez, il y a dans saint Thomas une phrase qui, j'avoue qu'il a fallu énormément de temps pour comprendre, parce que je ne savais pas du tout comment l'apprendre. Quand saint Thomas parlait de la loi nouvelle, il disait la loi nouvelle c'est la grâce, et puis dans d'autres textes il disait c'est l'Esprit Saint. Il disait c'est la grâce, c'est l'Esprit Saint. Alors ma petite logique de théologien, je me disais mais comment c'est la grâce, mais comment est-ce que c'est la grâce, c'est l'Esprit Saint, est-ce que c'est le Saint-Esprit, est-ce que c'est la grâce, est-ce que c'est une métaphore quand, il dit bon, mais non. C'est que c'est une grâce qui permet au Saint-Esprit d'habiter en nous. C'est une grâce qui n'est pleinement actualisée que quand le Saint-Esprit, cet hôte divin, qui est en nous. D'où je ne vis mon Nouveau Testament, vraiment, je ne peux pleinement le vivre qu'avec le Saint-Esprit. Mais comme l'ami intime. Et alors, la grande grâce qui sera faite aux apôtres le jour de la Pentecôte, vous voyez, il y a bien des grâces extérieures, vous voyez, le don des langues, mais la grâce la plus profonde, vous voyez, c'est ce feu intérieur, puisque le Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est sous le signe du feu, mais c'est ce feu intérieur qui fait qu'en réalité, l'Esprit Saint leur est donné d'une façon encore plus intime, comme un ami plus intime que Jésus quand il l'avait connu sur la terre. Quand ils ont vu Jésus remonter vers le Père, après la joie de s'apercevoir qu'alors tout était bien confirmé, la joie dans ce moment-là de sentir que tout était accompli, et puis se ressentir tout seul, pauvre. Voilà que le Saint-Esprit leur est donné comme un nouveau paraclet, comme un nouvel assistant, comme un nouveau consolateur. Et qu'ils ont une intimité encore plus grande avec le Saint-Esprit qu'ils n'avaient avec Jésus quand ils voyaient. Mais qu'en même temps, le Saint-Esprit leur donne une nouvelle amitié avec Jésus. Parce que s'ils sentent que c'est vrai, le Saint-Esprit est plus intime à eux que Jésus n'était pendant sa vie terrestre, bon, en même temps, le Saint-Esprit ne fait qu'un avec Jésus. Et quand le Saint-Esprit nous est donné en personne, c'est la personne même de Jésus qu'on découvre. Et alors, c'est à ce moment-là que les apôtres vont découvrir tout ce qu'ils n'avaient pas compris pendant que Jésus était sur la terre. Tous les aspects les plus divins, hein, tu pensais que c'était des métaphores. Quand Jésus leur dit « demeure avec moi », oui, alors, on se disait ben, « il faut que je garde tout le temps le souvenir de Jésus ». Avant tout mystique, parce que c'est une présence. Il y a une phrase très forte de notre père Saint Dominique, que tous nos premiers pères citent toujours, que Saint Dominique, enfin, il était très doux, Saint Dominique. Il était très, très aimé de ses frères, à cause même de sa douceur et de son humilité. Parce que Saint Dominique, au fond, il voulu très vite ne plus être supérieur. Lui, il pensait que pour toutes les tâches de supérieur, d'extérieur, je m'apprête tout, il ne faut pas que je sois un prêtre. Non, il aurait voulu que ce soit les frères convers qui soient les supérieurs pour s'occuper de toute l'administration, de tout ça. Non, j'ai les pères, les prêtres, ils ont autre chose à faire. Ils ont donné les sacrements. Et lui-même, c'était la seule chose. Et là, à cause de cette humilité, il était très, très aimé. Non, il était un soutien pour tout le monde. Non, à cause même de sa douceur. Non. Et là, à la fin de sa vie, beaucoup de ses frères étaient tout inquiets en disant, et là il les consolait en leur disant, mais soyez sûrs, mais non, quand je ne serai plus là, je serai encore plus près de vous. Et tous nos premiers pères disent, mais c'est vrai, quand il n'était plus là, il est encore plus présent à nous, il y a encore plus soutien avec nous. Vous voyez, bon, eh bien, ça a été les apôtres qui ont vécu pour Jésus encore bien plus. Vous voyez. Et ça, je crois que c'est la très, très grande grâce du Saint-Esprit. Au fond, Saint Jean de la Croix nous le dit merveilleusement. Il dit que quand il y a ces grâces d'union transformante, donc la personne de Jésus, en nous étant donnée, vient faire disparaître tous les personnages que nous pouvons jouer. Toute notre individualité humaine. Pour que nous devions, nous aussi, une vraie personne. Une vraie personne, mais telle que, dans les desseins du Père, nous devons l'être. Donc, que nous soyons tout à fait naturels. Il y a un petit peu, comme nous avons un exemple, dans notre pape actuel, que partout où il est toujours le même. Et en même temps, il s'est adapté à tout. Parce qu'il est tout simplement, il est une personne, il ne joue plus jamais un personnage. Bien, la grâce du Saint-Esprit, Quand le Saint-Esprit en personne nous est donné, quand le Saint-Esprit en personne nous unit à Jésus et au Père, en nous faisant entrer dans ce mystère de la Sainte Trinité, il nous fait dépasser notre petite individualité psychologique, notre petit moi de vivant, pour être vraiment une personne qui commence déjà la vie éternelle. Vous voyez. Mais là, Saint Jean de la Croix nous dit, mais qu'à ce moment-là, on n'a même plus le désir de voir Jésus avec ses yeux. On n'a même plus le désir d'avoir des paroles intérieures, d'avoir de la lumière, bien sûr. Mais parce que on a bien plus par la présence. Vous voyez, et qu'on sent très bien que les autres grâces, bon Dieu peut nous les donner, mais qu'elles sont en deçà de cette présence. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une paix profonde. Bien sûr, une paix qui peut connaître des moments d'arrêt, mais dans ces moments d'arrêt, on n'a plus qu'un seul désir, d'avoir assez de patience pour attendre. Jésus reviendra. Mais parce qu'on sait qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous redonner cette présence de Jésus. Ça a été la grâce qui a été accordée aux apôtres. Le jour de la Pentecôte. Vous voyez, et si l'Église a voulu, pendant tout ce temps pascal, nous faire relire les actes des apôtres, en même temps qu'elle nous faisait relire tout le récit de l'Évangile de Saint Jean, tous les passages sur le Saint-Esprit, c'est bien pour nous faire comprendre le changement qu'il y a eu chez les apôtres. Bon, avant, qui étaient peureux, qui avaient au fond, qui étaient craintifs, qui étaient jaloux les uns par rapport aux autres, et puis qu'une fois que le Saint-Esprit leur est donné, voilà, ça ne veut pas, ils ont encore leur tempérament, mais facilement ils le dépassent. Ils se remettent dans le Saint-Esprit, ils ont un moyen de quitter un petit peu toutes leurs imaginations, tout cela, de retrouver dans le cœur de Jésus. Ça, c'est la très grande grâce qu'il faut demander au Saint-Esprit. Il y a là, vous comprenez, Marie, elle va montrer aux apôtres, elle va les aider par sa simple présence. Il dit que pour se préparer à recevoir le Saint-Esprit, la grande voie, c'est, vous voyez, c'est cette petitesse, c'est reprendre cette attitude d'adorateur, tout simple, et reprendre cette attitude de bander tout simplement à Dieu, mais que sa volonté se fasse. C'est au fond surtout de profiter des petites humiliations, tout de suite revenir au Saint-Esprit, revenir à Jésus, lui demander, pour nous rappeler que dans sa vie, si les mystères, tout a commencé par les mystères joyeux, tout a fini par les mystères douloureux. Oui. Et que ce qui veut sanctifier surtout en nous, c'est à la fois toute la vie la plus simple, la plus cachée, bon, et puis les moments douloureux, et puis les moments un petit peu de persécution. Bon, c'est de cette manière que Marie nous prépare à recevoir le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'enseignement qu'elle doit nous donner. Hier, il me semble que dans cette année du jubilé, de ce jubilé entre 75 et le jubilé de l'an 2000, ce jubilé qui est, comme le pape le dit, un pont entre les deux, qui est en même temps une année de grâce, comme que nous avons comme le devoir de demander très, très particulièrement à notre Seigneur. Paul VI, quand il a commencé le jubilé de 75, il a aimé beaucoup rappeler qu'il fallait que l'Église vive ce qu'il y avait de spirituel, de plus spirituel dans Vatican II. Il fallait que l'Église devienne vraiment cette servante des pauvres. Il fallait que cette Église, elle comprenne vraiment que le monde a été sauvé par les pauvres, par les petits. Qu'elle vive des béatitudes évangéliques. Et c'est Paul VI lui-même qui a dit, si le concile a été tout centré autour de Jésus, la période qui vient après le concile, il faut qu'elle soit tout centrée autour du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le mystère que nous avons à vivre maintenant. Vous voyez, au fond, Jean 23, avant même de commencer le concile, c'est lui qui, quand il avait été athésé les premières fois, c'est pas qu'il a dit, mais c'est ce petit printemps qui avait découvert que dans l'Église, il y avait comme un printemps qui était en train d'apparaître au point de vue de l'Esprit Saint. Maintenant, c'est beaucoup plus qu'un printemps. Maintenant, les signes sont beaucoup plus forts. Bien sûr, en même temps que ces signes sont beaucoup plus forts, les dangers, bien sûr, au fond, c'est toutes les béatitudes que Dieu nous demande maintenant. Ce n'est pas simplement la première béatitude de la pauvreté, c'est toutes les béatitudes que Jésus nous demande de vivre. Mais je crois qu'il faut que nous ayons très très fort le sens que cette Pentecôte pendant l'année du jubilé, il faut que nous la vivions, mais d'une façon extrêmement fervente. Et que nous demandions tous au Saint-Esprit de venir en nous, mais d'une façon extrêmement ardente. Parce que nous avons tellement besoin de cette venue du Saint-Esprit. Et en même temps, nous savons que c'est l'Esprit Saint lui-même qui prépare le retour de Jésus. Mais il n'y aura pas d'autre préparation. C'est avant tout le Saint-Esprit lui-même qui le préparera. Et nous savons que plus le monde avance, mais au fond, c'est pas les prédicateurs ne sont pas de plus en plus grandioses, si vous voulez, spectaculaires, extraordinaires par leur éloquence d'autre part, mais il faut qu'ils soient de plus en plus des témoins du Saint-Esprit. Vous voyez, et ces témoins du Saint-Esprit, justement, par la petitesse et l'humilité. Alors, je pense que si nous voulons vraiment nous préparer pendant cette semaine pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que nous demandions le Saint-Esprit à un double titre. Vous voyez, tout d'abord, que nous lui demandions très fort de venir, parce que nous l'aimons. Vous voyez, et parce que tout ça tombe bien que nous ne pourrons pas nous sanctifier sans lui. Vous voyez, et qu'avant tout, c'est notre sanctification personnelle. Je dirais pas notre sanctification égoïste, mais notre sanctification personnelle, que nous savons qu'il veut que nous soyons des bien-aimés, qu'il veut venir à nous comme le bien-aimé. Enfin, et que la grâce qui a été accordée à Marie à l'Annonciation, nous savons qu'il veut nous faire la même grâce et que nous lui demandons ardemment cette même grâce. Vous voyez ? Non, la première grâce que nous demandons, c'est une grâce pour nous-mêmes, en quelque sorte, une grâce de sanctification. Vous voyez, il ne faut pas oublier l'Église. De l'Église, c'est l'Église des saints, ce n'est pas d'abord l'Église des apôtres. Non, c'est l'Église des saints d'abord. C'est la communion des saints que nous avons d'abord à vivre. Vous voyez, ce n'est pas une Église, d'abord des prophètes. Vous voyez, parce que Jésus veut, ben, il nous aime tellement, ben, il, par sa rédemption, par la grâce qu'il nous a obtenue, la grâce qu'il nous a donnée, c'est une grâce de sainteté. Ben, notre baptême, c'est baptême dans l'Esprit Saint, c'est un baptême qui immédiatement nous appelle la sainteté. Ben, vous voyez, alors ça c'est la première grâce qu'il nous faut demander. Pour être peut-être plus sûr encore de l'obtenir. Ben, vous voyez, il faut que nous ayons cette sorte d'intelligence que donne la grâce, la foi. Dire, ben Jésus, moi je suis un pauvre type, je ne fais pas grand-chose, je sais pas. Mais tu m'as demandé, tu m'as confié des gens que tu aimes tant. Tu as mis autour de moi des gens, mais pour que je ne les déçois pas, il faut que tu sois là. Je sens bien que tu me demandes d'être apôtre. Je sens bien que c'est tellement nécessaire maintenant, mais il n'y a presque plus de prêtres. Mais comment être apôtre sans toi ? Vous voyez, alors que nous demandions le Saint-Esprit, d'abord pour notre propre sanctification, mais que nous lui demandions aussi de venir pour faire de nous des apôtres. Vous voyez, que nous soyons vraiment ces apôtres tels que Jésus le veut. Vous voyez, et alors ça, c'était les phrases de Saint Dominique et de Saint François d'Assise. Oui. Au fond, Saint François d'Assise, vous voyez, Saint Dominique parlait de la sainte prédication. Non, la prédication, ça, c'est une œuvre de sainteté. On ne peut pas donner la parole de Dieu si on n'est pas saint. Ben, il faut la demander au bon Dieu. Puisque tu veux que je sois apôtre, ben, donne-moi la sainteté, il ne faut pas l'empêcher autrement. Ben, vous voyez, mais ça, c'est un argument qui touche beaucoup Jésus. Vous voyez. Moi, j'ai toujours remarqué dans ma vie apostolique, vous voyez, de supplier Jésus de venir en disant, mais c'est pas pour moi, mais c'est à cause de ceux que tu m'as confiés, comment veux-tu que je ne peux pas les aider si tu ne me donnes pas la sainteté? Parce qu'au fond, ils ont de telles difficultés, ils sont si angoissés, ils ont tellement besoin de ta présence, je me sens absolument incapable moi-même de leur venir en aide. Vous voyez, ça, c'est une prière qui est très agréable à notre Seigneur. Vous voyez, et c'est double aspect, pour pas séparer les deux. Apôtre, contemplatif, saint, ami de Dieu, bien-aimé de Jésus, voyez, et puis en même temps, d'être des apôtres. Cette œuvre de l'Esprit-Saint que nous demandons. Alors vous voyez qu'il y a tout un domaine immense qui nous est bon pendant cette retraite préparatoire du passé. D'abord, c'est bien sûr, c'est la sanctification personnelle de chaque homme. Vous voyez ? Mais bien voir ce que ça implique, cette sanctification personnelle. Ça implique l'unification complète de notre être dans l'amour. Très concrètement. Ça implique donc que nous soyons vraiment ces adorateurs en esprit et en vérité. Et puis ça implique en même temps que nous ayons un élan, que nous sentions toujours comme Marie. Soyons tellement ouverts, voyez, que nous ayons une telle espérance, en savant que nous sommes qu'au commencement, mais que ce n'est pas achevé. Voyez, et nous avons tellement besoin encore que le bon Dieu nous fasse progresser. Vous voyez, un saint, ce n'est pas un conservateur. Voyez, et quelqu'un, ses racines, elles sont dans la Sainte Trinité. Voyez, mais quand on est bien accroché dans la Sainte Trinité, la Sainte Trinité ne nous rend pas conservateurs. Hein? Il y a un feu dans nos cœurs. Il y a un feu, donc il nous donne un élan extraordinaire. Hein? Voyez, et un feu qui désire tout brûler. Hein? Voyez, alors on ne sera satisfait qu'au ciel. Hein? dans un incendie intérieur complet, total. Parce que les purifications même par l'eau, ça ne suffit plus. Il faut les sanctifier, les purifications par le feu. Vous voyez. Alors, voyez cette sanctification personnelle. Ça demande les deux pour nous. Vous voyez. Suivant les tempéraments, on sera un petit peu plus à demander de demeurer davantage. Vous voyez. Si vous êtes un petit peu, par tempérament, un peu refermé sur vous-même, si vous avez un petit peu peur du monde, le Saint-Esprit, il est plein de douceur. Il ne demande pas de dire, sois contre ton tempérament. Non, le Saint-Esprit, il me dit, viens encore plus près de moi. Mais oui, tu as besoin d'un refuge, encore plus. Enfonce-toi davantage dans le cœur de Jésus et de Marie. Mais laisse ce cœur de Jésus et de Marie, au fond, toutes ces murailles. Tu vas voir que ce ne sont que des châteaux de cartes. Tout ça, ça va disparaître. Et puis, au fond, tu vas te trouver tout ouvert pour les autres. Un beau jour, je vais dire, tiens, c'est curieux, toutes mes timidités, elles sont disparues, où est-ce qu'elles sont? Mais le Saint-Esprit les fait dépasser, vous voyez, en nous unissant encore plus à lui. Vous voyez, de l'intérieur. Et puis, si nous avons un petit peu de tempérament d'être un peu exaltés, nous avons de la difficulté de rester immobile. Bon, nous devrions toujours bouger. Le Saint-Esprit, en nous faisant comprendre que c'est lui qui doit tout réaliser en nous, il nous fait comprendre que le silence, c'est beaucoup mieux que la parole. Il nous fait comprendre que c'est dans l'immobilité qu'on est mis près de Dieu. Vous voyez, alors, quand vous lisez dans la préparation de la Pentecôte, lisez les hymnes au Saint-Esprit, le Veni Créateur, voyez, le Veni Sancte Spiritus. Et puis vous verrez justement ce rôle du Saint-Esprit, vous voyez, qui à la fois nous fait entrer dans l'Esprit. Alors, le Saint-Esprit, suivant les grâces un petit peu de chacun, pour chacun il ira davantage à Marie, pour d'autres il ira davantage à Jésus. Il y en a qui seront plus unis au Père, il y en a d'autres qui sont plus unis à Jésus. Le Saint-Esprit fera surtout sentir qu'en Dieu, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas ces faux problèmes. Vous voyez, si vous êtes très unis à Marie, mais Jésus jamais n'en prend ombrage, il est tellement content. Si vous êtes très unis à Jésus, jamais Marie se dit, mais tu m'oublies. Pas du tout. Vous voyez, si vous êtes très unis au Père, bien, Jésus s'en réjouit. Il a été mis si humble par rapport au Père. Et lui-même, il s'est fait si humble par rapport au Saint-Esprit. Vous voyez, alors il supprime toutes ces espèces de faux problèmes qui viennent de nous, de notre psychologie, mais qui ne viennent pas des grâces divines de Dieu. Vous voyez, alors la première chose qu'il faut demander, vous voyez, c'est cette sanctification personnelle. Vous voyez, que chacun de nous devienne vraiment personne, mais ça va à ses relations avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et alors, nous demander au Saint-Esprit qu'il fasse comprendre que toute notre vie du cœur, toute notre vie affective, elle doit s'achever aux trois personnes divines. Vous voyez, parce que c'est vrai, nous avons tous besoin d'un père ou d'une mère, nous avons tous besoin d'avoir des frères et des sœurs, nous avons tous besoin d'avoir un bien-aimé, la Sainte Trinité, tout nous est donné. Vous voyez, et cette sanctification que le Saint-Esprit réalise, c'est en nous identifiant aux personnes divines. Vous voyez, pas seulement en nous faisant participer à leur vie, mais en donnant une communion, les personnes divines se donnent à nous et nous identifions à eux au plan de l'amour. Vous voyez, c'est le premier point. Mais en même temps, il faut demander très fort que ce soit l'Esprit Saint qui vienne unifier ou nos communautés ou nos familles. Vous voyez, prendre conscience pendant cette neuvaine du Saint-Esprit qu'une famille, elle ne peut être vraiment chrétienne que si c'est le Saint-Esprit qui unit les deux époux entre eux, que si c'est le Saint-Esprit qui unit les enfants et les parents, que si c'est le Saint-Esprit qui unit la famille et puis les familiers de la famille. C'est le Saint-Esprit qui unit la famille aux amis. Vous voyez, qui unit la famille avec l'environnement. Et ce qui est vrai pour la famille de la Terre, c'est vrai pour toute communauté. Vous voyez, et il faut que nous ayons cette sorte d'audace, vous voyez, de demander au bon Dieu, il ne réalisera peut-être pas visiblement, mais il y aura sûrement des résultats qui seront donnés. Vous voyez, que quand nous souffrons dans notre milieu de travail, dans notre bureau par exemple, de dire ben, la vie du bureau serait tellement différente si c'était une communauté fraternelle. Au fond, bah de demander au Saint-Esprit qui jette un petit regard pour t'acheter de changer un petit peu les cœurs intérieurement, vous voyez, pour qu'il enlève un petit peu ses rudesses, ses... Vous voyez, il faut que nous ayons pendant ce souci un petit peu partout où nous sommes de demander que le Saint-Esprit pénètre. Vous voyez, bon. Et puis nous avons appris le Saint-Esprit pour l'Église. Vous voyez. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fera aimer l'Église. Et nous ne pouvons aimer vraiment l'Église qu'avec le Saint-Esprit. Vous voyez ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre, vous voyez, que la merveille de cette Église, c'est que ses sacrements, c'est que ses ministres, bon, c'est dans le corps mystique qu'ils nous sont donnés. Vous voyez ? Donc, nous ne pouvons comprendre le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation, que dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Alors, si nous disons, ben, je ne profite pas de mes communions, je ne profite pas de mon chapelet, je ne profite pas... Ben, c'est pas étonnant, il faut le Saint-Esprit. Vous voyez ? Et si le pape a dit, par exemple, pour le chapelet, que pour lui, c'était la prière qu'il aimait le mieux, parce que parmi les prières, si vous voulez, de dévotion, ben c'est évident que c'est celle qui demande le plus au Saint-Esprit. Non, un mystère joyeux, douloureux, glorieux, on ne peut le comprendre dans le, qu'avec le Saint-Esprit. Vous voyez ? Mais en même temps, c'est vrai que le Saint-Esprit nous fait comprendre que même sans réciter nécessairement, ben, tous les jours nous pouvons vivre notre rosaire profondément. Parce que tous les jours, il y a des mystères joyeux, il y aura un mystère douloureux, et puis il y aura la communion, il y aura l'Eucharistie, au moins par le désir qu'on ne peut pas faire autrement, et ça c'est un mystère glorieux. Vous voyez donc, cette prière pour l'Église, très très forte, pour demander que dans ce jubilé de la rédemption, vous voyez, le Saint-Esprit soit donné très fort à l'Église. Vous voyez, et c'est le moment, vous voyez, si vous souffrez, qu'autour de vous, vous sentez qu'il y a des choses qui font souffrir dans l'Église, que ce soit un stimulant pour prier, pour demander au Saint-Esprit. Parce que ce qui est extraordinaire dans l'Esprit Saint, c'est qu'il se présente comme le Consolateur. Et ça, c'est... Jésus ne nous le promet, ne nous l'annonce jamais, vous voyez, il ne vient pas comme un juge qui aillerait à l'extérieur de nous. C'est vrai qu'il apporte un jugement, mais un jugement d'amour. Et qui nous fait découvrir un peu que ce sera le jugement. Il nous apaise par rapport au jugement suprême. Vous voyez ? Parce qu'il nous fait comprendre que en Dieu, c'est encore l'amour qui juge le mieux. Parce que l'amour remet tout en place. Alors, ben, tout est bien jugé quand tout est mis en place. Au fond, remet dans cette justice de l'amour. Vous voyez ? Et c'est vrai que le Saint-Esprit sera, il viendra, mais vous voyez, et c'est ça ce grand mystère, l'Esprit Saint, il vient tout faire par amour, il vient tout réaliser dans l'amour. Alors, le dernier point de prière que nous avons ici, c'est de prier pour le monde. Vous voyez, parce que si Jésus a dit à ses apôtres, mais pas qu'il est laissé dans le monde, à la fois, il leur dit qu'il ne prie pas pour le monde, dans ce que le monde est mauvais, mais d'autre part, qu'il est mort pour sauver le monde. Vous voyez, c'est-à-dire que dans les desseins de Dieu, les sociétés, les nations, le monde international, tout ça, c'est dans les volontés de Dieu. Vous voyez, mais tout cela ne peut actuellement être unifié que dans l'Esprit Saint. Et alors je crois que c'est tellement important de demander cette venue du Saint-Esprit en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend à la fois le plus indulgent comme apôtre et en même temps le plus exigeant. Parce que il y a bien des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et là, c'est encore beaucoup. Qui font cette réponse, même que toi qu'on a cité des fois, ne connaît pas. Qui en fait n'ont jamais eu de contact avec Jésus. Mais ils ont tous eu un contact avec le Saint-Esprit. Parce que les moindres bonnes inspirations qu'il y a en nous, vous voyez, et Dieu a fait le tout petit enfant de telle manière que s'il n'avait pas eu des premières bonnes inspirations, il ne pourrait pas vivre. Vous voyez, donc, si le Saint-Esprit n'avait pas eu en nous, à un moment ou l'autre, une action, mais tout petit surtout, nous ne pourrions pas vivre. Vous voyez, donc, nous avons tous eu une certaine expérience du Saint-Esprit. Vous voyez, et c'est pour ça que plus... le Saint-Esprit prend place en nous, plus il fait être des apôtres doux, mais en même temps, je dirais, des apôtres intelligents parce qu'ils trouvent toujours la petite faille par laquelle ils peuvent pénétrer. Voyez, au fond, ils trouvent toujours le moyen, ne serait-ce que par la prière, ne serait-ce que par la présence, mais presque toujours trouver des petits signes. Hein, au fond, que les gens les plus durs, tiens, après tout, on s'aperçoit qu'il y a encore tel point, vous voyez, qu'ils sont sensibles au Saint-Esprit. Vous voyez, alors, vous voyez, une des prières que le pape faisait dans la prière pour le jubilé, et qu'il faisait bon de répéter pendant cette préparation au Saint-Esprit, quand il nous disait, Seigneur, donne-nous la sensibilité des saints. Alors ça, c'est une des grâces qu'il faut demander très fort au Saint-Esprit. Donne-nous la grâce d'avoir des sensibilités des saints. Si tous les chrétiens avaient la sensibilité des saints, eh bien, au fond, ils convertiraient énormément. Parce que, de fait, c'est vrai, le contact avec les gens, c'est souvent par la sensibilité. Mais pas par l'intelligence abstraite, et c'est pas non plus par la volonté. Comme on dit, il faut avoir un certain contact avec les autres. Mais pour qu'on les sauve, il faut qu'il y ait un contact qui soit dans l'Esprit Saint. Il faut qu'on donne cette présence de Jésus. Vous voyez ? Alors, cette grâce, il faut qu'on la demande beaucoup. Vous voyez ? Parce que, vous voyez, c'est une des souffrances les plus grandes qu'il y a dans notre monde. Et en France, peut-être, plus encore peut-être qu'ailleurs. Vous voyez ? Les gens deviennent durs, les gens deviennent, au fond, aigres. Au fond, cette sensibilité des saints, ça changerait tellement tout. Bon, il faut nous la demander au bon Dieu. Vous voyez ? Et puis, pour qu'entre nous, nous facilitions, nous aidions les uns les autres à nous rapprocher de Dieu.